Vous écoutez
RMC.
RMC.
On essaye de faire tourner, comment dire ça, tourner la vapeur, ça se dit.
On a tous monté d'un cran, monté le cursus, et c'est ça qu'on doit travailler quand tu as bien travaillé en entraînement, et monter le petit cursus pour être le meilleur possible.
C'est franchement un match de fou, un scénario de dingue, et je suis pas forcément d'accord avec ce que j'entendais de dire que c'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonjour à tous, l'after continue jusqu'à minuit en direct sur RMC, en direct sur After Foot TV. Évidemment l'after, première radio de France le soir avec Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Kevin Diaz avec nous ce soir, salut Kevin.
Salut à tous.
Et Jimmy Brown, salut Jimmy.
Salut Gilbert, bonsoir à tous.
L'événement ce soir dans l'after les gars, c'est la cote d'amour de l'équipe de France qui est en baisse. Eh oui, Jean-Louis Tour qui est en Pologne avec les Bleus va tout nous expliquer dans quelques secondes. C'est intéressant.
Il part deux jours avant, j'aurais fait un week-end.
C'est normal, il bosse.
C'est la veille, c'est demain le match. Il a fait la conf et tout.
Jean-Louis
reporter, la casquette de grand reporter de Jean-Louis.
Ah ouais, il te ramène une information capitale, il te ramène une étude révélée par Jean-Louis ce soir sur la cote d'amour des Bleus.
Il y a six mois, on avait une étude qui allait dans le même sens déjà.
Pas faux. Mais celle-là est quand même assez détaillée.
L'important, c'est que ce soit Jean-Louis. C'est lui qui est dessus.
Exactement. Daniel, par ailleurs, toi, tu veux parler de Deschamps et de son nouveau management avec les jeunes joueurs, d'autant qu'il a donné une interview sur ce thème-là, c'est intéressant. Débat concernant également Kylian Mbappé, qui, en tant que capitaine, s'est exprimé aujourd'hui. Va-t-il entrer dans la légende cette saison? Imaginez-vous, le MJDM, champion d'Espagne, champion du monde peut-être, allez savoir.
Ce MJDM me bute à chaque fois.
On va... Kevin, il me lance des regards.
En plus, tu lui rends tellement pas service avec ça.
On en reparle tout à l'heure. Après 23h, on va parler de la réforme de la gouvernance du football français qui traîne. On a peut-être des news à vous donner d'ailleurs, ce sera tout à l'heure après 23h. Et puis nous irons en Allemagne et en Espagne qui jouent ce soir. Là, c'est les qualifs dans tous les sens, hein, sur tous les continents. L'Amérique du Sud cette nuit, je vous donnerai d'ailleurs des infos concernant l'Argentine qui joue cette nuit. L'Afrique joue également ce soir. L'Europe joue en ce moment. Alors là, il y a un résultat assez surprenant. C'est que la Slovaquie mène 2-0, mais alors tranquillement contre l'Allemagne. Donc là, les Allemands se font balader. Paulo Breitner sera avec nous tout à l'heure. Il reste une demi-heure à jouer, hein, donc on verra ce que ça donne. Je vous donne d'autres résultats. Sachez que la Géorgie de Willy Sagnol a perdu contre la Turquie à domicile 3-2. L'Espagne mène tranquillement 3-0 en Bulgarie après 62 minutes. Les Pays-Bas, après 60 minutes, mènent 1-0 face à la Pologne. La Belgique mène 2-0 au Liechtenstein. Et puis, alors dans la zone Afrique, le Cameroun mène 3-0 face à l'Eswatini et se promène. Compliqué pour l'Algérie qui fait 1-1, c'est la mi-temps face au Botswana.
À domicile ?
Ouais, pour l'instant 1-1.
Plus étonnant encore.
Contre-performance pour le moment. La Tunisie en passe de se qualifier pour la Coupe du Monde, puisque les Tunisiens mènent 1-0 face au Libéria. Enfin, ils sont bien partis. Ce ne sera pas mathématiquement fait ce soir, hein, parce qu'il y a 12 matchs à jouer, c'est le 8e. Mais
les Tunisiens n'en parlent plus, ils passent pour un peu les petits du Maghreb, enfin les sous-cotés par rapport aux gros voisins.
Ils sont quasiment tout le temps à la Coupe du Monde.
Mais ils sont là en fait.
Quand on a fait l'émission en Tunisie, ils ont une certaine frustration parce qu'ils disent on y est souvent, mais quand on y est, on fait jamais rien.
Oui, ils n'ont pas une belle aventure marquante comme le Maroc la dernière fois ou l'Algérie 2014.
Mais leur fait marquant, c'est avoir battu la France avec Wabi Kazri dans le dernier match de poule au Qatar.
Oui, sur le gong, toute fin de match.
Bon, mais c'était un dernier match de poule, oui, d'accord, mais bon. Mais néanmoins, eux, ils sont en passe de se qualifier. L'Algérie galère un petit peu plus. Et ils sont généralement un peu sous-cotés par rapport aux deux voisins.
C'est vrai.
Ils ont pas mal travaillé sur les binationaux aussi, les Tunisiens à l'image.
Je te renvoie au magnifique podcast After Afrique avec l'excellent Slim Ben Othman, qui était directeur sportif de la Fédé et qui c'est lui qui a fait venir Hannibal Mejri, par exemple.
Oui, par exemple.
Il y a quelques temps. Garbi, là, rejoint la Tunisie. Ouais. Donc ils ont effectivement une stratégie.
Le PSG, Ismaël Garbi, qui est.
Il fait pousse-pousse avant.
C'est un peu facile, mais Flo est pas là.
Surtout,
peux la prendre.
Je crois qu'elle existe plus cette marque.
Non, ça fait bien plus je ne connais pas.
Elle existe pas cette marque. Elle existe plus. D'ailleurs, je vois plus cette marque là.
Ouais,
même les pubs et tout, fini.
Les pubs, c'est sûr que c'est fini. Est-ce que le produit existe encore?
Je sais pas. Je crois pas.
Dernier match en cours également à signaler, le Mali qui mène face aux Comores 1-0. Le Mali, là aussi, qui est pas très très bien dans la phase de qualif. Et Daniel, tu suivras, j'imagine, avec passion la zone CONCACAF.
Mais évidemment, c'est ma zone préférée, la
nuit prochaine, bien sûr. Voilà. Vous savez que Curaçao peut aller à la Coupe du Monde, par exemple, avec la Coupe du Monde à 48, c'est magnifique.
Normal.
Et il y a des équipes de ouf.
C'est normal que Curaçao puisse aller à la Coupe du Monde, puisqu'ils ont tout le système néerlandais qui les aide à très bien travailler, voire beaucoup de joueurs formés au Pays-Bas.
Curaçao est une île hollandaise.
Voilà. Très très belle île, apparemment. Jamais été.
Ah, oui.
J'ai vu des images.
En parlant d'Aquaman, en France néerlandaise, il y a le Suriname qui joue aussi à 22h30, là, à 23h30 contre le Panama.
On a été exhaustif.
On a été exhaustif.
Chacun a défendu sa boutique.
Jean-Louis Tour.
Il y a Aruba aussi qui est pas mal.
Aruba. Jean-Louis Tour est-il là?
Oui.
Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde. Bonsoir.
Salut Jean-Louis.
Bon, c'est comment la Pologne?
Eh ben Wrocław, c'est très sympa, figure-toi.
Ah.
Ouais, tu sais qu'on l'appelle la Venise de Pologne.
Ah ben, il y a toujours des Venises partout.
Qu'est-ce qu'il y a Venise, comme Venise dans le monde, c'est quand même incroyable. La Venise du Nord, la Venise du trois quarts Nord, du Centre.
La Venise verte.
Ah là là. Je vous connais par cœur, j'étais sûr.
La Venise provençale. Martin.
Ah, j'en étais sûr.
J'ai toujours la nausée quand j'entends
la Venise de Belgique.
Parce qu'il y a donc beaucoup de canaux ici à Wrocław, et c'est même la ville des 100 ponts, puisque donc du coup il y a plein de ponts pour traverser la ville pour se balader. C'est très sympa.
D'accord, c'est genre au centre de la Pologne, c'est ça?
Ouais, c'est un peu au sud quand même, un peu au sud de la Pologne, mais voilà, c'est la troisième ville de Pologne, 600 000 habitants, et voilà, avec un club qui est en Ligue 2, figurez-vous, en Ligue 2 polonaise, après avoir fait vice-champion, ils ont fait vice-champion et après relégué l'année d'après.
Alors donc c'est le stade évidemment de l'Ukraine, stade de repli en quelque sorte, parce que l'Ukraine ne peut pas jouer sur son territoire évidemment, vu la guerre en cours, donc ils jouent en Pologne depuis un moment maintenant.
Exactement, la Tarczynski Arena, où aura lieu le match donc demain soir.
Bon alors, tout à l'heure on va débattre de Deschamps, on n'aura pas forcément besoin de toi, on va entendre Mbappé, on n'aura pas forcément besoin de toi non plus, parce que déjà parce qu'il est tard. Il n'y a pas de décalage avec la Pologne, tu as le même horaire que nous là?
Ah oui, même horaire. Même.
Très bien. Non mais là le truc intéressant, c'est ce que tu nous as envoyé en fin d'après-midi. La cote d'amour des Bleus qui est en baisse et ça inquiète la Fédé. Il faut que tu nous racontes.
Alors exactement. Ça. Alors ça n'a rien à voir avec les sondages dont parle Daniel il y a 6 mois. Là vraiment rien à voir. Là c'est la Fédé qui a commandé une étude pour se faire une idée en interne. Et grâce à Arthur Perrault et Fabrice Hawkins, on a pu se procurer les éléments majeurs de l'enquête. Et là où je rejoins Daniel, c'est que c'est sans surprise. Il y a un manque de stars dans cette équipe. Et pour les sponsors, c'est un enjeu important. Derrière Mbappé, en gros, on connaît personne dans cette équipe de France. C'est le constat qui a été fait après les retraites de Giroud, de Griezmann. Et en plus de ça, il y a tout le contexte autour de cette équipe de France qu'on décrit depuis un moment. Les conséquences de l'Euro 2024 et du manque de spectacle. Certains joueurs un peu plus clivants que d'autres. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à tout ça?
Je ne sais pas qui sont les joueurs clivants pour le coup.
Bah ceux qui ont pris position et non, ça a pas plu à tout le monde, les prises de position des joueurs.
La prise de position de Mbappé petit ange là, c'est ça
Alors attends,
non, pas forcément petit ange parti trop tôt mais plus ça c'était pour l'affaire Naël, mais plus la suite pour le coup, les élections.
L'appel à ne pas voter pour l'extrême droite.
Voilà.
Pour le coup, il y a un petit paradoxe parce que le seul qui ressort positivement de l'étude, enfin qui apparaît comme
la méga star, c'est lui.
C'est Mbappé derrière, c'est un peu le gouffre toujours. Et c'est toujours la grande différence entre, et c'est pour ça qu'on dit toujours, le grand public pour l'équipe de France et nous, notre monde à nous, du quotidien de l'after, du week-end de Ligue 1, de ce que ça peut représenter, c'est un petit million, quoi.
Mais dans ce cas, c'est paradoxal, pardon, que Koundé n'ait pas pris position, par exemple, pour Dembélé, Ballon d'Or, clairement. Tu vois, le Ballon d'Or, ça, pour le grand public, c'est
jouer avec Yamal,
Oui, mais quand il a Fédé, tu vois, la Fédé, ils auraient pu pousser en disant, voilà, faut être tous derrière Dembélé, faut que ce soit.
C'est le Barça, sa boutique.
Voilà. Et puis, il faut pas froisser Mbappé non plus.
C'est pas la Fédé qui le paye, quand même.
Non, mais attends, Jean-Louis, donne-nous tous les éléments, parce qu'on va ensuite parler du désamour, mais la Fédé essaye de mettre en place des actions, quoi.
Oui, parce que.
Pour remédier à ça.
Parce que c'est pas si anodin, c'est une année de Coupe du Monde, donc c'est une année où les sponsors ont beaucoup de demandes et il y a besoin d'avoir des joueurs à forte notoriété. Donc même si le staff des Bleus nous a dit il y a pas de réelle volonté de mettre des joueurs plus en lumière que d'autres, on peut vous le dire, ils cherchent les nouvelles stars à faire monter. Déjà lors du rassemblement là, il y a eu des entretiens individuels qui avaient presque pas sur les derniers rassemblements. Bon, pas pour nous RMC, mais ça c'est un autre sujet. Mais d'autres médias ont pu avoir des interviews individuelles. Il y a des joueurs qui sont venus discuter avec les reporters comme ça en off. Ça c'est un truc qui arrivait plus depuis longtemps. Et
Donc il y a une volonté d'ouverture inédite, quoi.
Exactement. Alors encore une fois, hein, au niveau de l'équipe de France, on nous dit c'est le retour des vacances, tout le monde est plus détendu, etc. Moi, je pense qu'il y a une réelle volonté de s'ouvrir. Ouais. Voilà, exactement. Et voilà, l'idée c'est de s'ouvrir davantage, d'essayer de faire connaître un peu plus certains personnages de l'équipe de France, et je pense surfer sur la victoire en Ligue des Champions du PSG pour miser sur Désiré Doué, sur Barcola peut-être, sur Dembélé, même si là il est blessé.
La victoire du PSG en Ligue des Champions, trois quarts de la France on a rien à cirer. Hein. Ils sont supporters d'autres équipes, ils soutiennent les Bleus, ça soutient pas forcément
tu
le PSG.
Tu peux limite avoir une aversion.
Quoi. Non, mais
limite,
on parle de notoriété
limite,
là.
Limite, tu les mets trop en avant, ça va énerver pas mal de gens. Donc il faut également faire attention à ça. Il faut doser. Oui.
Il faut pas donner
l'impression d'une sorte de toute puissance. Sinon, les supporters des autres équipes et le reste de la France va pas fondamentalement aimer.
Jean-Louis, elle doit pas plaire à Deschamps cette ouverture là, parce que c'est pas trop son genre.
Je pense qu'il comprend également que c'est dans son intérêt.
Ouais, c'est ça. Et je me demande même si lui aussi fait pas ce chemin. Même si encore une fois il le dira jamais, mais moi je suis convaincu que là demain a priori avec les infos qu'on a eues de l'entraînement avec Valentin Jamin et Florent Germain, il va remettre quatre attaquants encore demain. Ça va être le quatrième match de suite qui fait ça. Alors lui dit c'est une question sportive, c'est comme ça qu'on gagnera le plus de matchs parce que vu le potentiel que j'ai.
Il le fait jamais contre les gros, on le sait très bien.
Il l'a fait contre la Croatie, contre l'Espagne en Ligue des Nations quand même.
On se fout.
Oui, on attendra de voir à la Coupe du Monde, mais là, en tout cas, pour l'instant.
Si tu as un premier match à la Coupe du Monde, t'auras pas quatre attaquants, faut pas rêver. Hein.
On a le droit.
On verra.
On a le droit de croire au changement, on a le droit d'être naïf. Ce soir, je me mets dans le camp de Jimmy et Kevin. Ah. Je suis avec eux. Le camp des naïfs ce soir est à trois.
Et je pense que c'est la dernière saison de Deschamps. Donc je pense qu'il a envie de rester sur cette belle image en fin de mandat.
Oui, ça peut se comprendre. Jean-Louis disait, il a envie d'être sur une image plus positive
sur la popularité.
Parenthèse pour les gens qui savent pas comment ça se passe. Quand tu es journaliste et que tu suis l'équipe de France, en fait, il y a une espèce de barrière infranchissable quasiment tout le temps entre le monde des joueurs et l'extérieur. Et il y a un Cerbère qui est le responsable presse de l'équipe de France pendant à peu près 45 ans.
C'est le Cerbère de la porte, il a les clés.
Non mais Philippe Tournon, mec, à peine tu demandais, je sais pas, tu demandais l'heure, il t'engueulait le gars, tu vois, c'était
Philippe Tournon, sa grande phrase de, il a bossé combien de temps auprès de l'équipe de France?
Je sais pas.
Donc toi t'étais journaliste, allé là-bas dans Clairefontaine, tu es arrivé et dit non mais vous êtes marrant aussi les journalistes, vous voulez parler aux joueurs. Pourquoi on est là? Il est con quoi. Pourquoi on vient? Et bon, on est venu pour voir les arbres. Évidemment, donc,
désormais, Philippe Tournon jouit d'une retraite bien méritée et il a été remplacé par Raphaël Raymond, qui est un ancien journaliste de l'équipe.
Philippe Tournon, c'était une autre dimension quand même.
Et donc, en fait, on sait que c'est pas facile, Jean-Louis. Quoi. Les relations sont toujours compliquées.
Hauteur de la boîte à cirage.
Alors, je te confirme que c'est pas facile pour les journalistes en général, et je te confirme aussi que c'est pas facile en ce moment pour les journalistes d'RMC en particulier. Ça fait partie de la vie.
Tu veux dire qu'on choisit les médias en fonction de si on est gentil ou pas. Ça, c'est bien, ça, dis
donc. La version officielle, c'est un oubli, mais on n'a pas eu de questions, nous, RMC, aux deux confs de presse.
Mais non. Bon,
pourtant, on a levé la main. On s'est croisés les regards, etc.
Donc, quand tu as. Tu me dis si j'ai tort, Jean-Louis. Donc, sur la scène, tu as soit Deschamps, soit Mbappé. Tu as à côté le responsable presse qui donne la parole, qui dit « toi ». Question.
Ah oui, il distribue le micro, en fonction des médias.
Donc en fait, à toi, ils n'ont pas donné la parole.
C'est qui donne le micro?
Non, ni à moi, ni à Valentin Jamin, ni à Florent Germain. Moi, je veux croire sa bonne foi. Il nous dit qu'il nous a oubliés sur cette conf de presse et que c'est un accident et que ça ne se reproduira plus.
D'accord.
Voilà.
Bon, en tout cas, c'est intéressant ce que tu nous racontes. C'est complet. Donc là, je répète, la formation principale, c'est pas un institut de sondage indépendant qui s'amuse à faire une petite étude sur les Bleus. Ça vient en interne de la Fédé.
Hein. Exactement, du service marketing, ouais.
Bon, donc ça a son importance parce que si les sponsors constatent eux aussi un désamour, ils vont moins investir, ça peut provoquer des problèmes économiques.
On a le droit d'essayer d'élargir
on va le faire.
La réflexion, l'analyse et
on va le faire, mais sans Jean-Louis, on va le laisser tranquille.
Pourquoi Jean-Louis, je suis sûr qu'il peut aimer cette discussion.
Tu veux rester un quart d'heure ou...
Ah, moi je fais ce que vous voulez, je suis à votre disposition.
Bon, alors on fait
le resto, c'est géré, c'est bon.
Magnifique.
Il faut qu'il nous raconte le resto.
Qui gère le resto, Jean-Louis?
Non, là, le resto, on a géré de façon collégiale. Un petit resto de poisson, là, à côté de l'hôtel. Très bien.
poisson. Pourquoi il y a la mer à Wrocław?
Bah, oui, non, il y a des rivières. J'ai commencé par ça, Daniel. C'est la Venise de Pologne.
Ah, mais je savais pas que tu avais
des poissons de rivière.
Poissons de rivière. Moi, je mange pas de poissons de rivière, donc je peux pas savoir.
C'est que, bah, on fait ce qu'on peut. Mmh. Ouais.
Dans un instant, donc, débat après ces informations. Là,
on va adorer côte, cette saison de Jean-Louis en.
La cote d'amour de l'équipe de France est en baisse.
C'est un silure pané.
On se retrouve tout de suite.
Non, tagliatelle au son.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h18, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, Jimmy Brown, Jean-Louis Tour est en Pologne, et on parle de la cote d'amour de l'équipe de France qui est en baisse. Je rappelle que notre numéro WhatsApp est toujours dispo, hein, bien sûr. 0 612 424 424. Boris nous écrit, il nous dit le couscous Garbit existe toujours.
Mais non.
Je mange d'ailleurs d'excellents taboulés de cette marque.
C'est vrai?
Nous dit Boris. Bon, voilà.
Pour bon, le signal, pas Daniel. Manger du couscous en boîte.
Ah, écoute, voilà. Donc. Kevin, quand t'entends tout ce qu'explique là Jean-Louis, est-ce que toi t'es étonné, surpris, toi qui es là sur les terrains amateurs tous les week-ends, au contact, tu vois, des gens qui potentiellement sont des supporters de l'équipe de France?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs grilles de lecture au fait que je vais pas parler de désamour, mais au fait que peut-être que les Français soient un peu moins attachés. Je vais pas parler que de l'équipe de France, mais c'est plus à leurs footballeurs. C'est-à-dire que je pense que d'ailleurs ce qui se passe en Ligue 1 depuis maintenant plusieurs années, ça participe à ça, même si les joueurs de l'équipe de France ne jouent pas pour leur grande majorité en Ligue 1, mais quand même, il y a forcément un désamour pour une population footballistique qui semble un peu déconnectée des réalités, notamment du football amateur. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce dont parlait Daniel, avec les prises de position des uns et des autres dans un pays qui est quand même ultra fracturé. Et quand tu vois les élections, quand tu vois les résultats des élections, qu'elles soient présidentielles ou autres, tu vois qu'il y a quand même un pays qui est fracturé, notamment pour des questions identitaires. Et cette équipe de France, elle représente quand même une certaine partie de la population, et ça peut ne pas plaire à certains, ça c'est clair, il faut le dire. Ensuite, la dernière grille de lecture, et c'est celle qui va le plus parler pour le marketing, c'est qu'en effet, il y a Kylian Mbappé qui est un joueur qui était très aimé par les supporters parisiens, notamment, mais qui n'est aujourd'hui détesté par une grande partie des supporters parisiens qui sont quand même nombreux, notamment en région parisienne. Ensuite, il n'est pas forcément aimé par les supporters marseillais, et c'est le phare et l'étendard de l'équipe de France en termes de popularité. Donc derrière, il y a un petit Désiré Doué qui débarque, il y a un Dembélé qui est plutôt, je pense, très apprécié, mais qui n'est pas un personnage ultra médiatique. Et puis derrière, t'as quasiment personne, t'as plus de Paul Pogba, t'as plus d'Antoine Griezmann, t'as plus d'Olivier Giroud.
Ils ont perdu responsabilité des champs là.
Ils ont perdu énormément avec un Antoine Griezmann. Ça c'est certain, qui était quelqu'un qui
Giroud aussi je pense.
Ouais, Giroud exactement, mais j'ai envie de te dire surtout Griezmann, il y avait aussi un Raphaël Varane qui était toujours ce personnage assez lisse mais que tout le monde appréciait, qui était parti très jeune au Real, qui avait réussi, qui dit jamais un mot plus haut que l'autre. Donc je pense qu'ils ont quand même beaucoup de figures qui aujourd'hui ne sont plus en équipe de France, et ça n'aide pas non plus.
Moi, je peux rejoindre sur Griezmann, mais après, t'as des personnalités sympas dans cette équipe. T'as Koundé, que tout le monde met en avant à juste titre régulièrement. T'as Ibou Konaté.
Parle beaucoup, et quand il parle, il plaît pas à tout le monde quand il parle.
Ils sont peut-être moins lisses.
Il y a eu aussi. Je terminerai juste sur l'épisode justement avec Koundé et Konaté sur les tenues quand ils sont arrivés à Clairefontaine. Moi, je trouve ça super.
Nous fait marrer. On en parle beaucoup, mais ça plaît pas beaucoup.
Je vous ai lu des messages, enfin, un ou deux. Oui. Mais hier, les messages sur ce thème-là,
bien sûr
les gens disaient
pas.
Mais c'est ridicule, pour qu'ils se freinent. Genre, en gros, c'est ils nous étalent le pognon à la tronche. Les marques de luxe et tout.
L'avis de Kevin est quasi parfait parce qu'il a abordé les plus grands thèmes qui, selon moi, indiquent ce désamour.
Mais Kevin progresse. Hein,
le premier.
Pas si naïf.
Le premier. Ça ne veut rien dire du tout, c'est complètement différent, ça, mon vieux. T'as le droit d'être très fort, très bon, intelligent et naïf. C'est ce que tu es.
C'est bien aussi la naïveté, de temps en temps.
Tu es frais. J'aime bien ton analyse, partage beaucoup de choses, parce que le premier, t'as appelé ça un peu la déconnexion, c'est ce que vient de dire Gilbert, c'est ce que vous avez dit. Je pense que l'un des éléments le plus important, c'est ton deuxième point, c'est les fractures profondes de ce pays qui ne cessent de s'accentuer. Aujourd'hui, clairement, ça fait longtemps que ça dure, hein, mais ça s'accentue toujours plus. Quand t'es un jeune et que t'as des origines étrangères, tu soutiens quasiment tout le temps le pays d'origine de tes parents. Je le sais, parce que jamais j'aurais pu penser, par exemple, que mon fils ne soutienne pas l'équipe de France. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais je le vois, donc si je le vois à cette échelle-là, bah, j'imagine que le gamin de deuxième, troisième génération de Marocains ou de je sais quel pays autre, peu importe, ils vont pas naturellement soutenir l'équipe de France. Il y a plus cette fédération, cet amour global qu'il pouvait y avoir encore il y a 20 ans. Franchement, c'est en train de plus en plus de se fracturer.
Moi, je partais quand même plus dans l'autre sens.
Absolument, t'as raison. Et il y a un parallèle. J'en avais parlé il y a quelques mois de ça, mais à mesure que la popularité de l'équipe de France de rugby grandit, celle de l'équipe de France baisse. Je pense qu'on va pas faire une photo pour comprendre pourquoi pour certaines personnes en France c'est important. Je pense que tout le monde comprend ce qu'on veut dire. Et j'avais expliqué il y a quelques mois que je trouvais que c'était un paradoxe presque terrible parce que.
Ah, on est sûr que c'est très triste.
Parce que honnêtement, je pense que cette équipe, je l'ai dit il y a quelques mois, ça faisait très longtemps qu'on avait payé une équipe aussi sympa. La plupart des mecs, vraiment.
C'est des bons mecs en équipe de France.
C'est vraiment, t'écoutes un mec comme Konaté, un mec comme Tchouaméni. Pendant, je me souviens, dans les premiers temps de l'after, les mecs avaient soit s'exprimaient pas bien, et quand tu t'exprimes pas bien, ça veut pas forcément dire que t'es débile ou que t'es un mauvais mec, mais tu peux donner au minimum cette impression. Enfin, peu importe, enfin, pour des gens qui vont avoir une
bonne
impression. Mais là, les mecs s'expriment bien. Les mecs sont souvent intelligents, ils disent des choses. Tu vois, c'est, bon, je pourrais t'en citer plein. Ils sont partis tôt, ils sont plus structurés qu'à une époque parce qu'ils évoluent dans des grosses institutions. Mais encore, je répète, Konaté, Tchouaméni, Mbappé, Koundé, je vais pas tous les citer, mais en fait, je vois quasi pas d'exception de type qui pourrait avoir une mauvaise image. C'est-à-dire, en ce moment, on passe.
Oui, il y a pas de bad boy, par exemple.
En ce moment, on passe le doc sur Samir Nasri sur Canal. Ouais, franchement, nous, on était à l'after à l'époque. Hein. Waouh, putain, il était dur. C'était dur de parler de Nasri à l'époque. Il y avait beaucoup de trucs autour de lui, ses rapports avec les journalistes.
Pas que lui, toute la génération 87. Exactement. En fait, il en parle bien d'ailleurs.
Exactement.
Dans le doc.
À ce titre, c'est intéressant à voir. Mais l'époque de ce côté-là, elle a rendu les joueurs, je trouve, plus ouverts, moins dans les polémiques. Moi, on a eu en équipe de France, il y avait une guerre Galas, Nasri, enfin des choses qu'on a décrites pendant des années. L'after, pour ceux qui s'en souviennent autour des années 2010. Là, il n'y a pas ça. Plus sympa, plus ouvert, plus. Mais, et pourtant, c'est pour ça que je parlais de paradoxe, il y a cette cote qui faiblit, il y a ce désamour qui grandit, qui est probablement, certainement fondé sur de mauvaises choses et de mauvaises impressions.
Tu veux dire
et de mauvais sentiments.
Je reformule ce que tu disais tout à l'heure sur l'équipe de France de rugby et l'équipe de France de foot dans un moment où Kevin parlait de France fracturée.
France des campagnes, France des banlieues.
Donc en gros, où les deux bords politiques aujourd'hui sont polarisés aux extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Donc en gros, le rugby. C'est un peu le truc des blancs en quelque sorte, et le foot, oui. C'est un peu le truc des banlieues.
De toute façon,
c'est l'image que ça renvoie.
Honnêtement, tu schématises à peine, mais, regarde ce qui s'est passé pendant Coupe du Monde de rugby, JO. Mais en plus, moi, ce qui me dépasse tout le temps, c'est qu'on oppose les gens, et même ceux qui ne veulent pas être opposés se retrouvent parfois embarqués dans des oppositions. Moi, la Coupe du Monde de rugby, qu'on ait fait un procès en racisme à la cérémonie d'ouverture parce que ça mettait en lumière les vieilles traditions de la France et tout, j'avais trouvé ça dégueulasse. Oui. Comme de la même façon pour les JO qui ont montré un autre aspect de la France, on a pu dire que c'était l'opposé. Mmh. C'est ça, c'est à chaque fois on veut sans arrêt que les Gilbert polariser,
écouter. Il faut être pour ou contre. Voilà. Et moi, ce que je disais, c'est que j'avais une discussion une fois avec quelqu'un qui m'expliquait aussi que, tu sais, aujourd'hui, tu vas au Portugal, les gens sont fiers d'aller avec leur drapeau au stade. C'est-à-dire qu'il y a des drapeaux portugais partout.
Tu peux pas, drapeau français, ça a été vendu depuis des années.
Et malheureusement, c'est vrai que quand quelqu'un va prendre le drapeau français, et ça c'est très triste aussi, c'est-à-dire on va dire « Ah, t'es franchouillard !» Mais en fait, voilà, être franchouillard, c'est aussi bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte à être franchouillard. Moi j'avais fait, je raconte souvent, j'avais fait la finale de l'Euro 2016. J'étais dans une tribune, où j'étais dans la tribune des supporters portugais. Moi, j'avais un maillot du Portugal, mais je chantais l'hymne français. Et le gars, il me regarde et il me dit, mais pourquoi tu dis gentil?
C'est vrai qu'il t'embrouille un peu, là.
Non, mais non. Non, mais en fait, je dis, bah, en fait, bah moi, oui, je suis français.
C'est donc, en
fait,
il y en a tellement en France,
si t'es pas content, c'est la même chose, en fait. Ferme ta bouche et assieds-toi. Tu vois? Donc, en fait, il y a plein de gens qui vont pas
s'embrouiller dans les tribunes.
C'est hooligan.
Il y a un moment, je peux comprendre que les gens ne comprennent pas certaines choses, mais aujourd'hui, moi, je le dis à mes enfants, nous, on est pour le Portugal, on est pour la France, on est fiers d'être pour la France. Dans un moment de sa vie.
J'aimerais bien savoir à un moment. Ton fils a quel âge?
14. Donc il y a un moment de sa vie.
Et il n'a pas fait un choix, il est entre les deux vraiment?
Non, il est pour la France pour l'instant. Mais il y a un moment de sa vie, peut-être qu'il sera pour le Portugal. Peut-être. Moi, ça, j'ai été pour la France à fond en 98 et en 2000, un peu plus pour le Portugal en 2006, puis je suis revenu pour la France avec Zizou.
Nationaux, quoi.
Voilà, mais c'est ça, être binational. Donc aujourd'hui, moi j'adore l'équipe de France de rugby, peu importe la couleur, j'adore l'équipe de France de foot, j'ai adoré suivre les JO et c'est aussi parce que
aujourd'hui dans une exception.
Oui, malheureusement.
Mais moi j'entends évidemment tout ce que vous dites est très juste, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement une partie aussi de manque de spectacularité quand tu regardes les bleus, tu t'ennuies,
c'est un élément aussi ça ramène à Didier Deschamps.
Oui, mais cet élément là il ne touche en fait que les fans de foot.
Oui, il touche pas
parce que le grand public, c'est ce que je dis toujours,
si tu gagnes tu perds.
Quand tu fais 10 millions pour un match de l'équipe de France banale, t'es à 5. Un match un peu plus important, tu montes à 10, et un gros match à partir des quarts de Coupe du monde, t'es à 15-18 millions. Là, t'es explosé encore. Tous ces millions qu'augmentent, c'est pas des fans de foot, ils en ont rien à cirer de comment on joue. Ouais. L'équipe de France à 4-3-3, 4-2-3-1, ça joue bien, ça joue à une touche, ça joue pas à une touche, ils bétonnent la défense, ils en ont rien à cirer. Ça va intéresser 1,5 million de personnes. Ouais, grand max!
C'est les abonnés Ligue 1 Plus, quoi.
Voilà, ils sont là pour voir les Bleus gagner. Ouais. Et ils s'en caquent de comment? Vraiment. Les petites discussions que nous on a, c'est notre petit quotidien à nous.
Je pense pas que les mecs, ils kiffent voir des buts, même quand t'es pas un énorme fan de foot.
Non, mais l'équipe de France, elle passe 5 fois dans l'année. Ouais. Le grand public, ils veulent l'avoir gagné sur TF1. T'as déjà entendu un débat sur le jeu, on a rien à cirer.
Il y a quand même un truc sur l'overdose de foot, même pour le grand public, avec la Ligue des Champions qui suivent, avec la Coupe du Monde des clubs, avec l'équipe de France. Et l'équipe de France, forcément, si tu sors des considérations sociologiques, elle pâtit aussi de l'overdose même de sport.
Ah oui, non, Kevin, parce que c'est la seule fois où tu peux voir du foot gratuit.
Oui, non, mais ils regardent quand même les gens. Mais qu'ils soient moins passionnés, parce qu'il y a quand même, il y a du foot gratuit, mais il y a aussi Netflix, où il y a du sport, il y a aussi MyCanal, et puis il y a Amazon Prime. Donc il y a tellement d'offres de sport quand même. C'est énorme, tu vois.
Najib, notre producteur, vient de m'inventer une nouvelle expression qui me plaît beaucoup. Il me dit, donne la parole à Jean-Louis, sinon il va faire un air talk.
j'étais d'accord avec vous. Quand vous êtes bon, j'ai rien à rajouter. Moi, je vais pas forcer. Hein, si vous
voulez. Bravo, Jean-Louis. Voilà, t'auras pas fait de air talk. Tout va bien.
Voilà. Après, il y a des spécialistes des air talk. Hein. On peut aussi faire une liste et tout, mais il y en a, ils le font vraiment. Hein. Voilà. Okay.
On va pas les donner.
Toi, c'est sûr que non.
Merci Jean-Louis, c'est sympa. Merci.
Quelques messages WhatsApp. Jérôme nous dit, Mbappé cristallise le désintérêt. C'est un joueur clivant, il ne respire pas le collectif que doit être l'équipe de France. Grisou revient, nous dit Jérôme.
Je crois pas. Mbappé, c'est la seule star de l'équipe pour le groupe.
Non, mais ce qu'il dit, c'est qu'il a raison.
Hein. Moi, pour moi, mais ça va changer.
Non, mais ça existe aussi. Mais encore une fois, ça existe pour certaines personnes où c'est des niches. Niche des supporters du PSG qui lui en veulent.
Je suis pas sûr quand même. Je suis pas sûr parce que
j'ai un autre argument, pardon, mais j'ai Mamadou qui dit, contrairement à une époque, il y a trop de matchs maintenant de l'équipe de France. C'est aussi peut-être pour ça que ça intéresse moins. Il y a une overdose de matchs de sélection.
Azerbaïdjan-France ou Ukraine-France à Wroclaw, ça intéresse moins. Oui, faudra voir les chiffres. Demain, tu vas faire péniblement 5 millions. Vendredi soir.
Il n'y a pas plus de matchs de l'équipe de France qu'avant.
Si, ouais, t'as plus de fenêtres internationales qu'il y a. Si t'as des
nations. Bah, la fenêtre de septembre, octobre, novembre, mars, et avant les compètes.
Oui, mais l'équipe de France pâtit quand même de l'overdose de foot général, moi, je trouve. Même si le grand public regarde pas tous les matchs, mais regarde quand même les grands matchs.
On parle des audiences ou on parle du désamour? Parce que tu peux regarder.
Les deux.
Et les deux sont liés. Ça t'intéresse moins.
Les deux sont liés.
Que on soit moins intéressé par un. Azerbaïdjan-France, c'est normal. À force de nous vendre des multiplications de matchs, il y en a qui sont bien
dedans. La Ligue des Nations,
c'est pas l'overdose de match, c'est le fait que il y ait plus de coups près sur ces matchs-là.
C'est ça,
qu'on va se qualifier quoi qu'il arrive.
C'est pas intéressant, tout simplement. Voilà.
Mais oui, c'est ça. En fait, moi, je vous donne rendez-vous dans un an, parce que quand Zidane sera là. vous allez voir que bam, ça va repartir. Ça, effet curiosité.
Effet curiosité, oui. Pour le reste,
Zidane, j'attends de voir.
Moi, je suis très content qu'il vienne, mais
j'attends de voir.
Notre avis et celui du grand public, il faut attention à pas mélanger. Ouais,
attention quand même, parce que le sous-thème Mbappé leader un peu clivant, voire clairement clivant, ça va quand même au fait, avec le fait que Griezmann était très rassembleur, que Zidane était très rassembleur, que Platini était très rassembleur. Donc en fait, attention, si Zidane revient, Zidane, ça reste un rassembleur.
Oui, il va prendre la lumière. Oui.
Donc il va prendre quand même ce rôle
de leader.
Mbappé,
il va devenir rassembleur. Vous allez voir, je pense que Mbappé il va devenir ce capitaine rassembleur et tout. Je pense qu'il y a eu un déclic là ces derniers temps et je pense que dans l'attitude, on avait déjà commencé à voir des choses contre la Croatie et tout. Là, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Même aujourd'hui, il était hyper détendu en conf, ça avait rien à voir avec les confs d'il y a quelques mois encore.
D'ailleurs, il a dit qu'il avait compris certaines choses.
Exactement.
Je crois qu'il a écouté Kevin hier soir.
Encore deux petits messages là, on me dit sur WhatsApp, ça nous intéresse moins parce que le jeu de Deschamps est pourri, et Deschamps il est rincé, il y a trop de matchs sans enjeu contre des équipes à portée de main.
Ça c'est vrai, les matchs sans enjeu contre
Et Seb nous dit les quinquas où les gens plus âgés ne comprennent plus les jeunes de toute façon, donc ils n'accrochent pas avec une génération de mecs de 25 ans. Explication, je sais pas.
Après, puis, le fait, les gens qui nous écrivent, c'est des fans de foot, c'est pas le grand public.
Oui, mais attention, il y a aussi, puisqu'on parle de génération, on l'a dit, on le répète, déjà depuis plusieurs mois, voire années dans l'after, les jeunes générations s'intéressent de toute façon moins au foot. Et donc ça participe aussi à une forme de.
Pas ces matchs-là, encore moins.
Jean-Louis, merci beaucoup.
Et ben à demain.
À demain soir pour le match, évidemment.
Ton premier match des Bleus, là, en vedette.
Il va gagner, tu penses ou pas?
Je ne sais pas s'il va gagner, mais on l'attend en tout cas.
D'ailleurs, je précise que Jean-Louis sera dans l'after demain soir après le match avec Daniel et avec Maxime Chano.
Absolument.
Et avec Karine Galli qui sera là. Demain soir donc.
À demain.
Dans un instant, Deschamps au programme. Deschamps qui a expliqué justement son nouveau management avec cette jeunesse là, dont on parlait il y a quelques instants. Kevin aussi, il a des jeunes en National 2. On va nous dire s'il est d'accord avec Deschamps. Et puis, on entendra ensuite Kylian Mbappé qui s'est exprimé aujourd'hui avant de parler des instances et de faire un point sur les matchs du soir. Pour l'instant, pas de dévolution de score notable. Bon, la Belgique est en train d'éclater Liechtenstein 5-0. L'Algérie galère toujours pour battre le Botswana. Il reste 20 minutes. Toujours à partout, je vous fais un point complet sur les scores dans quelques instants. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
22h39, Daniel Riolo, Kevin Diaz et Jimmy Brown sont là. Avant de parler de Deschamps, les gars, il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, c'est que Jean-Louis Tour, on aurait pu le féliciter, il a craqué le huis clos, comme on dit dans le milieu, puisqu'il nous envoie un message nous disant que l'équipe de France jouera demain en 4-2-3-1. Donc Maignan dans les buts, Koundé, Konaté, Upamecano, Digne en défense, Tchouaméni, Koné devant cette défense, ensuite une ligne de 3, Doué, Olise, Barcola, et donc Mbappé en pointe. Voilà le dispositif tactique de Deschamps ce soir à l'entraînement.
Une équipe qui est sympa sur le papier quand même. T'as envie de regarder quoi. Doué, Olise, Barcola, Mbappé devant, c'est sympa.
Effectivement, 4 joueurs offensifs.
Faut voir ce que ça donne après dans l'animation, sur le terrain, c'est toujours ça qui est compliqué, qu'on demande à voir.
Voilà, ça vous inspire rien.
Je pense que le plus gros défi de Deschamps maintenant, à un an de la Coupe du Monde, ça va être ça. Comment il va... D'abord élaborer les hiérarchies, parce que faire jouer Dembélé, Mbappé ensemble, à quel poste? On pourrait très bien considérer que Dembélé est désormais un numéro 9, donc dans ce cas quid de Mbappé qui en est un autre également, donc il va falloir qu'ils cohabitent tous les deux.
Parce que ça, il a tranché en conf, il a dit c'est un axial Mbappé, il bougera pas de là. Okay. Est-ce qu'ils joueront les deux dans l'axe? C'est une autre question.
Donc ça veut dire que Dembélé ne va pas jouer au même poste que celui qu'il occupe en club.
Oui, mais est-ce que tu peux?
Non, mais ça arrive en équipe de France, ça arrive en équipe nationale à 1000 joueurs, c'est pas le problème.
Et puis il a
pas
le même milieu en équipe de France qu'au PSG, tu vois, pour performer.
C'est juste que les qualités des uns et des autres doivent. C'est le boulot d'un sélectionneur de les gérer. Milieu de terrain, derrière. Moi, je trouve que on est au début de la dernière aventure de Deschamps, qui doit aller sur une Coupe du Monde où normalement t'es censé être parmi les favoris. T'as des joueurs de qualité, indéniablement, mais comme on disait pendant la pub avec Kevin, tu regardes les Pays-Bas, tu regardes l'Allemagne, même si ce soir ça va pas du tout pour l'Allemagne.
Ils ont perdu.
Tu regardes le Portugal, je sais pas si j'ai dit l'Espagne.
L'Espagne s'est baladée.
L'Espagne, évidemment. Enfin, t'as 4-5 pays.
Sans compter l'Argentine, évidemment.
si le Brésil arrive à se remettre debout,
de plus loin,
enfin
ouais.
Bon, t'as quand même l'Angleterre, t'as 5-6 équipes où, sur le papier, t'as que des top joueurs. À moins d'une surprise avec une autre nation qui vient semer le trouble, mais globalement, t'as le champion du monde dans ces équipes-là et t'as de la qualité partout, que des top joueurs. Donc t'as quand même de la concurrence. Et dans cette aventure-là, là on démarre, ça veut pas dire qu'il va pas y arriver du tout, attention, hein. Mais donc, nouveau schéma, visiblement, 4-2-3-1. On peut pas dire que ce soit dans la grande tradition de Deschamps ces derniers temps d'avoir un milieu de terrain à deux, et ce deux, il va falloir le construire. Tchouaméni,
c'est ça le plus grand défi, ouais.
Plus un, plus Manu Koné, plus Rabiot, plus, donc il va falloir les déterminer, toutes ces hiérarchies. Le jeu, j'ai l'impression qu'ils vont envoyer le message, ce SMS, on l'a reçu déjà 3-4 fois. Je me souviens qu'avec Kevin, on l'avait bien reçu une année.
Est-ce que c'est le SMS qui te dit vous êtes chez vous? C'est le livreur, vous êtes chez vous? Vous l'avez reçu ce message?
Deux fois par jour.
C'est fatigant.
Voilà. Donc, qui, en gros, là, c'est le SMS.
Alors, on le dit quand même aux auditeurs, il faut pas répondre. Hein.
Ouais. Cette fois, je vais envoyer un petit peu plus de jeux. Donc, bah nous, comme on est naïf, on a envie d'y croire, donc on va y croire. Donc on va déjà voir son 4-2-3-1, mais c'est contre l'Ukraine. Donc Gilbert va intervenir là pour dire, tu verras, dès que c'est une plus grosse équipe, il le fera pas. Je veux voir, parce qu'en fait, mine de rien, maintenant, il a tellement de joueurs offensifs que ce serait complètement dingue de se priver d'un schéma qui met autant de joueurs offensifs. Mais comme en plus la tendance et la mode est maintenant à ce qu'il y ait eu une prise de conscience générale à travers le PSG, à ce que tout le monde travaille, puisque là le gros message qui a envoyé, c'est maintenant il y a plus de mecs un peu
qui courent pas,
machin, tout ça. Donc ça veut dire que tu peux jouer avec des joueurs offensifs, il suffit qu'ils fassent le taf. Mais aujourd'hui, les talents, donc il va falloir organiser Doué titulaire ou pas, Akliouch remplaçant, oui. Est-ce que tu vas avoir du temps de jeu plus tard? Est-ce que c'est Olise qui joue tout le temps maintenant? Dans quelle position par rapport à ce qu'il occupe au Bayern? Dembélé, qui côté gauche? Qui avec Tchouaméni? Si Tchouaméni est titulaire indiscutable, honnêtement, moi je
mets pas bon, titulaire complètement indiscutable. Il est bon depuis le début de saison avec Xavi Alonso.
Alors s'il l'est, donc ça veut dire qu'il y a un plus un. Manu Koné, Rabiot. Donc moi je trouve qu'il y a pas mal de questions, sans parler des latéraux, où là, Koundé ça a l'air béton. Je veux dire, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas vraiment de questions.
Même si Malo Gusto, il a fait un bon mondial des clubs, et ça va dépendre de sa saison. Mais après,
Koundé a quand même beaucoup d'avance.
Et si tu joues à 4 devant, en fait, t'es obligé d'avoir des latéraux un peu plus défensifs.
Mais moi, de toute façon, les
côté gauche, c'est un peu plus flou. Donc, je trouve que sur une dernière année avant la Coupe du Monde, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Il y a beaucoup de qualité. Maintenant, il faut qu'ils réussissent à monter tout ça, à unir les pièces du puzzle, quoi. Mais c'est intéressant, en tout cas.
Moi, ma seule question, c'est pas le 4-2-3-1, c'est pas est-ce qu'il, moi, je veux savoir, et je veux qu'un jour, Didier Deschamps, peut-être dans sa dernière année, mais alors là, je ne vais pas être naïf puisque je n'y crois absolument pas, est-ce qu'il sera capable de nous dire, ou au moins de nous proposer sur le terrain, qu'on puisse savoir quelle est l'animation de l'équipe de France? Qu'elle soit offensive ou défensive. Moi, je m'en fiche du système. Aujourd'hui, le système, ça n'existe plus. Tu n'es jamais en 4-2-3-1 sur un terrain. Tu n'es jamais en 4-3-3 sur un terrain. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux sortir les ballons d'abord? Est-ce que tu vas faire une défense à 3 avec un milieu de terrain qui va peut-être décrocher, ou est-ce qu'un latéral va venir entre les lignes? Est-ce que tu vas demander à tes ailiers d'être larges? Est-ce que tu vas demander à tes latéraux d'être larges, à tes ailiers de rentrer?
Tu le vois moins dans les équipes nationales, ça, quand même.
Ouais, mais non. Ah non, je suis désolé. Tu le vois en Espagne. Tu le vois au Portugal, bien sûr. Après,
tu devrais le voir avec les qualités des joueurs.
Ok, un truc que tu veux voir. Est-ce que l'équipe de France est capable de presser, oui ou non?
Je suis d'accord avec toi.
On va pas parler, non, de système ou d'animation.
Où est-ce que tu commences ton pressing?
Est-ce que c'est un bloc haut?
Est-ce que c'est un bloc médian, bas, transition?
Il a dit déjà qu'il a condamné le pressing haut. Il a dit, avec les conditions aux États-Unis, tu peux pas presser haut. C'est ce qu'il disait un peu dans l'interview de ce matin dans l'équipe. Il a dit, c'est trop exigeant physiquement.
Il y aura le cooling break.
Presser haut, c'est.
Ok,
donc
presser
haut, c'est.
Mais là où je te rejoins, c'est que le paradoxe avec les gens, c'est que.
En Russie, ils pouvaient pas presser. C'est haut non plus. Non, et puis les compétitions.
Il pleuvait, ça gênait la pluie. Ouais. Non, parce que ça tombait dans les yeux des joueurs.
Et puis de toute façon, les compétitions internationales sont souvent en été. Donc en fait, Didier Deschamps ne peut pas presser. Alors peut-être qu'il va prendre un club dès la rentrée prochaine. Il va prendre un club où il fait très froid en hiver. Et peut-être qu'il pourra presser.
Pour se réchauffer, ils pourront presser.
Voilà, je pense. Mais.
Le paradoxe de Deschamps, c'est que même si tu mets 4 joueurs offensifs, c'est pas pour autant que tu as vu plus de jeux quand il y avait 4 joueurs offensifs.
Qu'est-ce qu'ils vont faire, les joueurs offensifs?
C'est pour ça qu'ils parlent des intentions.
Bien sûr. vont faire les joueurs offensifs? Est-ce que les joueurs offensifs, ils seront là pour contre-attaquer? Est-ce qu'ils seront là pour avoir le ballon? Est-ce qu'ils seront là pour imposer un jeu de possession, ou un jeu de position même? Ou est-ce qu'ils seront là, je sais pas moi. Mais aujourd'hui, moi je reviens à la phrase de 2018 où Paul Pogba après, et là il n'y avait pas de problème de préparation, d'accord, c'est Didier Deschamps, il est champion du monde, bravo monsieur, mais ton capitaine de vestiaire, pas forcément de brassard, te dit après le premier match, coach, on n'a pas travaillé le pressing, t'es en Coupe du Monde, t'as joué 90 minutes, ton meilleur joueur au milieu de terrain te dit, mais coach, mais on n'a pas travaillé le pressing, et l'autre qui lui répond, ah ouais mais, bah oui Paul, ah bah si vous voulez travailler le pressing, ah je vous préviens, ça va être embêtant, hein. Mais moi je sais le faire, hein. On peut le faire. Et il a été quand même champion du monde. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Après, moi je veux bien, mais Deschamps, moi je pense que
bon, débat continue.
Il n'a rien nous proposer.
Le débat continue dans quelques instants.
Parce qu'il sait pas faire.
Sachez que l'Espagne a définitivement gagné en Bulgarie 3-0. On aura Edgar Grollo tout à l'heure. Le match est fini entre les Pays-Bas et la Pologne, un partout. La Belgique de Rudy Garcia a gagné au Liechtenstein 6-0. Et puis l'Algérie a marqué par Bounedjah, l'éternel Bounedjah, 2-1 face au Botswana. Il reste 10 minutes à jouer. À 4 minutes de la fin, la Tunisie mène 2-0 face au Libéria. Et le Cameroun mène 3-0 face à l'Eswatini. À tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h53, Daniel Riolo, Jimmy Brown et Kevin Diaz sont là. Je vais vous livrer dans quelques instants ce qu'a dit Didier Deschamps sur les jeunes joueurs et comment lui il adapte son management à tout ça. Mais d'abord j'aimerais qu'on accueille Joe, 32-16, qui veut revenir sur nos débats et notamment sur la cote d'amour de l'équipe de France. Salut Joe.
Salut l'équipe, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, super, merci. Je tenais à dire, bah c'est moi la personne, on avait parlé de Rabiot, je sais pas si tu te souviens Gilbert. On avait parlé de Rabiot et de sa mère, et puis j'étais aussi là lors de la première de Monsieur Cazard.
Ah, donc tu vois, t'es un habitué, Joe.
Voilà, c'était moi qui vous observais.
Très bien. Et là, donc sur la Côte d'Amour des Bleus, tu dis quoi?
Bah pour moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit au sujet de la Côte d'Amour des Bleus. Et je pense que Zinedine Zidane, ben, quand il va arriver, il va faire du bien, parce que Zinedine Zidane, il a déjà un statut, il a une aura. Pour moi, il n'a pas beaucoup d'expérience en termes de coach, mais...
Bon, non, fait, il a gagné combien de Ligue des Champions?
Trois Ligue des Champions, ouais. Il n'a pas d'expérience.
Justement, je vais en venir. Justement, je vais en venir. Pour moi, le fait que... Moi, j'ai suivi, en fait, l'arrivée de Zidane au Real Madrid. Et ben, il a gagné ses trois Ligue des Champions, mais je ne pense pas que ce soit plus sur le plan tactique. Je pense que ce soit plus sur le plan de son aura, sa capacité à fédérer, à pouvoir gérer justement des gros égos dans un vestiaire. Et qu'il a eu aussi cette chance, c'est que pendant 3 ans, le vestiaire du Real Madrid, il n'a pas changé d'un poil. Ça veut dire que c'était toujours les mêmes joueurs. Au final, il a pu fédérer son groupe et créer un groupe solide. Et c'est ce qu'il va faire pour moi en équipe de France, parce que pour moi, Deschamps, il n'arrive pas du tout à gérer les égos. C'est-à-dire que dès qu'il y a un joueur qui fait une déclaration, le mec, il est perdu en conférence de presse, il se mange des questions de tous les côtés, il ne sait même pas comment répondre. Et pour moi, c'est
ouais, après Joe, moi je veux bien qu'on critique souvent Deschamps le tacticien, mais sur le côté managérial, etc., tu peux quand même lui reconnaître sa capacité à faire des groupes, à fédérer autour d'un projet et d'arriver à les amener loin quand même. Alors, il a réussi à faire ça.
Cette histoire que Zidane, en gros, est totalement déconsidéré sur ces trois Ligues des Champions, parce que tactiquement, moi, faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, la tactique, c'est une affaire de où tu mets ton bloc et est-ce que tu fais du pressing, du contre-pressing. Faut arrêter de fantasmer sur des schémas tactiques. En plus, quand on parle de management, la plus grande qualité de Deschamps, elle est là.
C'est
justement
ça, ce que je
parce
dis,
que la façon dont les joueurs sont toujours, il suffit de voir la dernière Coupe du Monde, mener 2-0 en se faisant dominer, sans limite toucher le ballon et réussir à aller jusqu'au péno. Parce que tu lâches pas, parce que ton groupe il est là, parce que collectivement les mecs sont tous ensemble et se battent les uns pour les autres, c'est ce qui fait la force d'un groupe collectif, quoi. Donc la qualité de Deschamps, c'est ça. Qu'après tu t'éclates pas sur le jeu qu'il propose, ça c'est autre chose, on l'a toujours critiqué pour ça, ça n'a pas de problème. Mais Zidane, son équipe au Real, on s'emmerdait quand on regardait le Real qui gagne 3 Ligues des Champions de suite. J'ai pas l'impression, il y avait des bons joueurs qui répondaient aux exigences du coach. Bon, les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, souvent, elles ont des très bons joueurs. C'est un puzzle assemblé. Et c'est des équipes qui, toutes les équipes n'ont pas été révolutionnaires tactiquement, quoi.
Non mais et puis gagner une Coupe du Monde, c'est bien. Il l'a fait en 2018, un peu à la surprise générale, avec un groupe, avec une alchimie, avec un système qui a bien fonctionné. Mais ce qu'a fait Zinedine Zidane, si on fait une petite comparaison rapide, en gagnant trois Ligues des Champions de suite,
qui le fait. Il n'y a pas de coach qui fait ça.
Zidane, c'est le plus grand palmarès du football français en tant qu'entraîneur, point. Et pourtant, il a été entraîneur que 4 ans. Mais le gars, il gagne 3 Ligues des Champions.
Mais il est déconsidéré, tactiquement, il n'a pas inventé. Il y a plein de coachs qui n'ont pas inventé.
Vous vous rendez compte, le gars, la pression qu'il avait, Zinedine Zidane, qui devient entraîneur du Real, et le mec, il va te chercher 3 Ligues des Champions. Alors oui, il avait Ronaldo, oui, il avait Modric, Kroos, etc.
Mais
ils étaient là aussi avant. C'est pas pour ça que le Real a gagné toutes les Ligues des Champions avec eux.
Je remercie Joe au 32-16. Alors oui, sur Deschamps, sur les jeunes, c'est intéressant parce qu'il a expliqué ça à West France. Il dit je dois m'adapter. J'accorde toujours le droit à l'erreur, mais je ne suis pas là pour interdire pour interdire. Prenons l'exemple des téléphones portables dans le vestiaire. À quoi ça sert que je me batte alors qu'ils ont la liberté de les utiliser dans leur club ? Et puis après tout, ça me sert aussi, il dit, parce que moi, quand je veux les contacter, je sais qu'ils me répondent tout de suite. Voilà, il faut juste poser un cadre. Pour moi, c'est dans le cadre de vie et le cadre de travail qui compte. Cette phrase ne veut rien dire, mais il l'a dit quand même. Enfin bref, évidemment, ils ont plutôt tendance à vouloir élargir le cadre.
Mais de toute façon, ça aussi, ça fait partie du...
Alors, il dit un truc quand même, moi, qui me choque un peu. Il dit, ma manière de parler, par exemple, est différente. J'ai connu des causeries de 45 minutes, c'est long. Aujourd'hui, l'autonomie en face de moi, c'est 10 minutes max.
Ben c'est le management, tout ça. C'est le management.
Un joueur de foot, il n'est pas capable de rater 10 minutes.
Qui donne des jours de congé pour que les mecs aillent se reposer entre les matchs, les 2-3 jours et tout. C'est du management. Avant, ça ne se faisait pas. Maintenant, ça se fait. Ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus d'entraîneurs qui font ça. Les 10 minutes d'autonomie, on sait. La plupart des coachs le disent, ça. En plus, Deschamps, son truc sur l'adaptabilité des groupes, il en avait parlé déjà il y a pas mal de temps. Il disait même que son fils l'aidait là-dessus pour comprendre les jeunes générations et les nouveautés, les nouveaux codes, on va dire, on va appeler ça comme ça. Moi, je trouve que ça fait partie du management. T'étais obligé. On a vu des coachs un petit peu à l'ancienne qui se sont fracassés sur des groupes parce qu'ils ne savaient pas s'adapter.
Il faut dire que quand t'as une tactique minimaliste, c'est quand même plus simple de faire 10 minutes, quoi.
Toi, tu veux dire qu'il n'y a pas besoin de plus de 10 minutes pour expliquer des choses.
Les gars, on reste bien en place, on joue les transitions rapides et les coups de pied arrêtés. Je pense que c'est bon, j'ai fini la causerie. Hein.
Bon, tu peux faire plus rapide, quoi. Et puis, une dernière info, équipe de France, avant de passer à la suite. Vous savez que tous les matchs là, à domicile, jusqu'à Noël, vont se jouer au Parc des Princes.
Mais est-ce qu'on reverra un jour le Stade de France ?
Alors en fait, je voulais juste quand même préciser qu'il y a un gros flou aujourd'hui autour de la concession du Stade de France, puisque la gestion du stade devait théoriquement changer demain, au mois d'août, mais l'affaire n'est pas réglée, puisqu'il y a un recours de Vinci Bouygues contre JL Evans qui a été rejeté par le Conseil d'État. Bref, la Fédé française de foot n'a pas trouvé d'accord avec les futurs gestionnaires, donc pour l'instant, il n'y a plus de Stade de France. Ça, c'est quand même un truc. C'est...
La vérité, je m'en fous complètement.
Oui,
j'ai jamais aimé ce stade, donc.
Oui, mais c'est quand même le stade.
Si l'équipe de France se met à jouer.
C'était le stade des Bleus depuis 98.
Moi, si l'équipe de France se met à jouer un coup à Lyon, un coup à Marseille.
Mais justement, c'est bizarre que là, tu fasses les trois matchs au Parc.
Ça me va tout à fait, moi.
Tu vois, par rapport à ce qu'on disait en début d'émission sur le manque de popularité, etc., la logique aurait voulu que tu tournes un peu, tu vois, que tu fasses un match au Parc, un à Lyon, peut-être un à Marseille aussi.
Je suis d'accord, j'ai toujours milité pour ça, que l'équipe de France soit itinérante, c'est normal, c'est l'équipe de toute la France.
Et puis en plus, t'as des beaux stades maintenant, quand même, depuis l'Euro 2016. Donc.
Vouloir te qualifier pour une Coupe du Monde,
si tu veux beaucoup de monde, tu fais à Lyon parce que c'est grand,
à
Marseille. Même à Bordeaux. À Bordeaux, ils n'ont pas de football professionnel depuis deux ans.
Est-ce qu'au Parc des Princes, ils vont mettre l'Amérique?
C'est un beau stade quand même.
Est-ce qu'il y aura Jodassin? Non, mais c'est vrai, vouloir te qualifier pour une Coupe du Monde aux États-Unis en jouant au Parc, tu prends des risques.
Exactement. Il y a une jurisprudence, on va dire. Voilà. Bon, finalement, je ne vous ai pas fait écouter Mbappé. Bon, il n'a pas dit des trucs extraordinaires non plus. On ne va pas se mentir, vous ne ratez pas grand-chose. Mais vous retrouvez tout sur rmcsport.fr. En tout cas, il a l'air souriant, nouvelle coupe de cheveux.
Oui, j'aime bien, ça lui va bien.
Sur rmcsport.fr, on voit, il a joué avec le micro, il était passionné par le micro, la bonnette, il l'enlevait, il la remettait, etc.
Il était dans le mood que nous décrivait Jean-Louis, l'ouverture.
Voilà. Le changement, c'est maintenant.
Exactement.
Après, dans un tout autre état d'esprit que l'année dernière, quand même, à la pareille époque. Donc, il est dans une autre forme.
Il faut rappeler qu'il y a un an, il ne voulait pas venir, et que c'était compliqué avec le sélectionneur.
Il y a un an, mais oui, enfin. Il y a un an, il est quand même arrivé une sale histoire.
Oui, oui, c'est pour ça que je te dis ça.
Il a quand même été victime d'un beaucoup monté quand même.
Et Deschamps a dit avec Mbappé désormais, c'est ciel bleu.
Ça a figuré complotplo, ça aussi. Ça tombe dans les complotplo.
Ah non, ça non.
Ah, moi, je sais pas. Parce que maintenant, dès qu'on dit un truc, on est en Suède.
Tu parles de l'histoire en Suède.
Ouais, ça a été éprouvé, jugé.
Ah, bah, je sais pas, moi. À chaque fois, on dit, donc, il faudrait savoir qui est derrière ça. J'ai une idée, mais ça va être la fixette, donc on va laisser tomber. Parce qu'en fait, il y a tellement d'hypothèses en même temps. Il y en a beaucoup des hypothèses, n'est-ce pas?
Pourquoi tu me regardes, moi?
Il y a beaucoup d'hypothèses.
Réponds, Jimmy.
Il y a beaucoup d'hypothèses qui étaient en guerre contre lui. Moi, je suis factuel. Sur ce coup-là, il est vrai que ça a été prouvé qu'il a été victime d'un coup monté.
Il était en guerre contre lui, le PSG. Voilà, c'est ça que tu veux dire.
Ah, bah non, moi, je dis rien, moi. Sinon, ça fait ses complots après, donc.
Bon, bah là, on l'a dit de concert. Dans un instant, on parle instance. Eh oui, non,
mais
vous savez.
C'est pas rien, je veux dire, c'est extrêmement grave. Mais en fait, toutes les affaires graves dans notre foot, en fait, les médias s'en cagent.
Après, c'est pas forcément un complot, Daniel. Ça peut être un truc. Malheureusement,
qui m'explique pourquoi les affaires n'intéressent plus personne dans notre football. Les gens sont tous dans le clubisme, sur leur petit club, et si tu touches. Les mecs, ils peuvent avoir tué père et mère, un wagon d'enfants, ils n'en ont rien à cirer. Tant que tu es dans mon club, faut pas y toucher, faut rien dire. Il n'y a pas de médias qui traitent des affaires. Je vais répéter pour la millième fois que j'ai pas vu trois lignes sur ce qui s'est passé avec Platini, ce qui est complètement délirant. Délirant. Sur les affaires du foot français dont on va parler tout à l'heure, personne n'en parle. On a un quotidien historique en France. Je vois rien là-dessus.
Il y a eu deux, trois trucs.
Alors que c'est une situation catastrophique. Et on ne pointe pas du doigt les responsables. On n'explique pas ce qui se passe dans les coulisses. Alors que si moi je sais, parce que je vais parler aux gens, ils peuvent tous aller parler aux mêmes gens. Les gens vont parler. Les gens parlent. Sur ces affaires-là, ça parle. C'est pas une affaire de transfert qu'on essaye de dissimuler. Moi, je vois pas. Je regarde les émissions et tout. Je comprends pas.
Dans un instant, justement.
Comme les instances
dans l'after, sur la table de l'after. L'inertie continue. On se retrouve dans quelques secondes et puis d'ici minuit, vous saurez tout sur la défaite surprise de l'équipe d'Allemagne face à la Slovaquie ce soir.
Ça peut être chaud, la Polo, il va être énervé.
Ah, tout de suite.
Slovaquie va être énervé.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.